A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Salut, c'est Nadia de Nanner Podcast. Avant que tu découvres ce nouvel épisode, j'aimerais te parler de Yes Podcast. Yes, c'est le podcast qui m'a donné la force de me lancer. C'est un podcast féministe et résolument positif. Deux fois par mois, Margaïd, Elsa et Anaïs célèbrent nos victoires de femmes contre le sexisme sous toutes ses formes. Yes, c'est pour toi, c'est pour nous, c'est pour toutes les warriors du quotidien. Tu peux les écouter sur toutes les plateformes d'écoute. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de te demander si ta famille et toi, vous vivez dans le même siècle ? Pendant l'été, il m'est arrivé à deux reprises d'assister lors de repas festifs à des scènes racistes. Les deux fois, il a été question de personnes noires. Et les deux fois, la simple évocation de ces personnes a déclenché l'hilarité générale. Qu'est-ce qui se passe chez ces gens, que j'aime par ailleurs, pour qu'ils se comportent comme ça ?
Bonjour à toutes et à tous, qu'est-ce qu'on est contente de te retrouver enfin. Comme tu l'auras compris, aujourd'hui, on va parler du racisme subi par les personnes noires dans les communautés maghrébines. On te le rappelle, Nerner, c'est un podcast créé par trois femmes d'origine maghrébine, Jamila, Meryem et moi Nadia, dans le but de valoriser la diversité de nos identités. Aujourd'hui, je suis donc accompagnée de mes co-animatrices de toujours, Jamila et Meryem. Bonjour.
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 Et pour commencer cette saison 2 en beauté, on a le plaisir d'accueillir Zineb Grillet. Bienvenue dans Nerner Podcast, Zineb.
Bonjour, merci beaucoup.
Bienvenue dans Nerner Podcast. On est très 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 heureuse de t'accueillir en tant que première invitée de l'émission. Tu es donc en direct de Grenoble. Alors Zineb, elle a 20 ans, elle est étudiante en école de commerce à Grenoble. Elle est marocaine et elle est en France depuis ses 18 ans pour ses études. Il y a 2 ans, elle a créé la page Instagram Kahwa Half Half, qui signifie littéralement café moitié-moitié, où elle parle de sujets concernant les personnes noires, nord-africaines et subsahariennes. Alors déjà pour commencer, Zineb, est-ce que tu peux un peu nous en dire plus sur toi, d'où tu viens, comment tu définirais ton identité ?
Alors comme tu l'as dit, je suis marocaine, j'ai vécu une grande partie de ma vie au Maroc, donc près de 18 ans de ma vie au Maroc. J'ai assisté à beaucoup de scènes... je pense que j'ai l'expérience, en fait, tout simplement, d'une personne qui est mat de peau, qui a les cheveux frisés et qui a vécu au Maroc, en fait. L'expérience sociale d'une métisse. Quand on me regarde, on voit en fait que je suis mélangée, que j'ai d'une part une identité marocaine blanche et d'autre part une identité marocaine noire, tout simplement.
Et toi, pour te définir, pour te présenter, parce qu'on a déjà eu le débat avec Jamila et Meryem, par exemple, moi, je dis souvent que je suis maghrébine ou amazigh. Parfois, on dit qu'on est arabe. Toi, comment tu te définis en termes d'identité ?
Moi, pour le coup, j'aime pas trop l'étiquette arabe. Je trouve que ça me définit absolument pas. Je me définis plutôt comme étant amazigh. Après, qu'il y a des origines subsahariennes, des origines européennes, un peu comme, je dirais pas une grande partie de la population maghrébine, mais disons une partie quand même. Du coup, je préfère plus le terme nord-africaine, même si ça reste un peu vague, mais nord-africaine, je trouve que ça me définit un peu plus que maghrébine ou arabe.
Et tu nous disais que tu avais vécu des expériences de racisme quand tu vivais au Maroc. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ?
Oui, c'est ça. Alors, du coup, pour moi, ça a commencé. Depuis le très jeune âge, dans ma famille même, en fait, j'étais appelée Azia, donc pour traduire, ça veut dire négresse. Après, pour ma famille, c'est pas vraiment méchant. Pour eux, c'est un moyen de me taquiner. Mais voilà, en fait, depuis que je suis toute petite, on m'a définie comme étant Azia, comme ils disent. Et aussi, dans mon entourage, les personnes que je ne connais même pas parfois, qui, par exemple, peuvent m'interpeller par rapport à mes cheveux, par rapport à ma couleur de peau, ou tout simplement me dire asie, mais de manière plus insultante, on va dire. Ce qui m'a vraiment marqué par rapport à mes expériences, c'est plutôt pendant mes années lycée et même parfois collège, où par contre ici, on se moquait de moi vraiment pour qui j'étais, en fait. J'étais vue comme étant la métisse de l'école et on n'a pas hésité plusieurs fois à m'interpeller par rapport à mes ancêtres en les traitant de singes, en me disant que en tant que noire je devais pas parler quand il s'agit de sujets entre potes et tout, plein de choses comme ça.
Et tu es donc en France depuis que tu as 18 ans. Et est-ce qu'en France aussi, on a remis en question en fait, ton identité marocaine ?
Par exemple, si je rencontre une personne d'origine marocaine ou algérienne ou peu importe, que ce soit une fille ou tout simplement un garçon, si je ne parle pas en darija, on ne croit pas quand je dis que je suis marocaine. Ou si je ne montre pas mon passeport parfois, on ne croit pas. On me dit non, toi, c'est pas possible, tu ne peux pas être marocaine. On dirait plus que tu es brésilienne, afro-brésilienne ou afro-américaine, à la limite métisse, mais pas maghrébine. C'est pas possible. Ça dépend vraiment du regard de chacun. Il n'y a pas un test qui te permet de prouver que tu es noir ou tu es métisse ou autre. Ça dépend vraiment de comment chacun te voit, en fait. Il y a des personnes qui vont te décrire plutôt comme étant métisse, d'autres qui n'acceptent pas le mot métisse et qui te diront tout simplement, si tu as des origines noires, tu es noir, en fait. Et pour d'autres, je sais pas, tu es maghrébine, peu importe que tu aies des origines noires ou pas, ça dépend vraiment de chacun et du regard de chacun, en fait.
Mais à ton avis, pourquoi dans l'imaginaire collectif, les personnes d'origine nord-africaine ressemblent à quelque chose en particulier et pourquoi elles ne seraient pas noires, pourquoi elles ne seraient pas blanches ? À ton avis, ça vient d'où ?
Je pense qu'on a plus mis en avant, un certain type de maghrébin. Après, comme je l'ai souvent dit, d'après mon impression personnelle, après ça reste juste une impression, il n'y a pas d'études statistiques à côté ou quoi, mais d'après mon expérience personnelle, j'ai l'impression que le type de maghrébin qu'on a mis en avant, c'est-à-dire des personnes ayant la peau plutôt blanche, des cheveux de type méditerranéen, c'est-à-dire un peu ondulés, voire lisses, et qui ont certains traits, j'ai l'impression que c'est un peu le type de maghrébin ou maghrébine qui est le plus répandu. Après, ça reste juste une impression. Et aussi, par rapport aux médias, quand on va sur les médias dédiés en fait, aux Nord-Africains, enfin plutôt aux Maghrébins et aux Amazirs, on met en avant qu'un seul type d'Amazirs, c'est-à-dire des Amazirs qui sont très blancs, avec les cheveux lisses, parfois qui ont carrément des traits caucasiens, c'est-à-dire les cheveux blonds, les yeux bleus. Et en fait, on est fiers de ce type de Maghrébin, mais on n'est pas du tout fiers en fait, de l'autre type de Maghrébin qui a plutôt des cheveux frisés, la peau mate, voire sombre. En fait, on met vraiment en avant un certain type de maghrébin et on est fier que d'un certain type de maghrébin. Et quand c'est des maghrébins qui sont vraiment, pour le coup, très caucasiens, là, on est encore plus fiers, quoi. Ils font la fierté, quand tu lis les posts sur eux, ils font limite la fierté du Maroc ou de l'Algérie, ou de la Tunisie.
Tu penses que c'est un manque de représentation de la diversité, en fait, de nos physiques ?
C'est ça, en fait, parce que même quand j'étais au Maroc, je pense que si j'avais pas eu accès à Internet pour voir, en fait, d'autres modèles de représentation, c'est-à-dire des personnes qui me ressemblent, qui auraient, du coup, qui seraient, pour le coup, plus plutôt afro-métisses, je pense que j'aurais pas accepté mes cheveux, j'aurais pas accepté ma couleur de peau, j'aurais pas accepté beaucoup de choses.
Est-ce que tu penses pas que c'est aussi un héritage colonial qui nous est resté, puisque finalement, avec Myriam, on parle souvent de nos grands-mères pour qui le standard de beauté, c'est la peau blanche.
Oui, c'est ça. Je pense que c'est un héritage, comme tu l'as dit, pour le coup, colonial aussi. Enfin, c'est un phénomène qu'on peut pas expliquer juste par un seul facteur. Il y a vraiment énormément de facteurs qui rentrent en compte. Et donc, pour le coup, oui, moi, je pense aussi qu'il y a une part, que la colonisation a une part en fait de responsabilité dans ce qui se passe au Maroc. Et je pense que il y a pas juste nos grands-mères qui ont ces critères-là. Il y a aussi des personnes qui ont mon âge ou qui sont vraiment plus jeunes qui ont ce genre de critères. Enfin, par exemple, je me rappelle quand j'étais au Maroc, j'avais accompagné une pote à moi qui voulait du coup se lisser les cheveux. Et quand on est parti au salon de coiffure, la dame m'a regardée, elle pensait que c'était vraiment moi qui voulais me lisser les cheveux. Et quand je lui ai dit non, elle m'a dit « Ah bon, t'es sûre, tu serais un peu plus belle, en fait, avec les cheveux lisses. » Voilà, des trucs comme ça. Des remarques, pour le coup, qui sont pas méchantes, mais vraiment, dans la tête des gens, c'est vraiment bienveillant de dire ce genre de choses. C'est comme s'ils voulaient te sauver, en fait, en fin de compte.
Tout à l'heure, tu parlais d'ailleurs de ton expérience chez le coiffeur. Et on va commencer avec un premier témoignage de Yacine Alami, qui est co-créateur de « Halash is Beautiful ». Halash is Beautiful, c'est un mouvement qui a été lancé en 2018 par deux militants d'origine nord-africaine. Et l'objectif de cette page, c'est de revaloriser les cheveux dits halash dans les communautés nord-africaines. En gros, pour ceux qui ne connaissent pas, l'expression halash, ça désigne de manière très péjorative les cheveux qui ne sont pas raides. Et j'ai envie de dire, autour de cette table, il n'y a pas beaucoup de cheveux raides. Donc je pense qu'il faut qu'on arrête de détester de nous détester, quoi, de détester nos corps. Donc merci à Yacine pour son témoignage.
Pour ce qui est du colorisme à proprement parler, elle remonte aussi donc à ces histoires, à l'histoire ou aux histoires du Maghreb. Si on parle pour aujourd'hui, bah c'est quelque chose qui ressemble aussi à ce qu'on peut voir en Amérique du Sud ou dans le Caraïbe. Plus on est clair de peau, plus on a une meilleure situation sociale, plus on est mieux vu. On dit même au Maghreb, plus t'es clair de peau, plus t'auras de facilité à te marier, par exemple. C'est quelque chose qui est aujourd'hui très très prégnant et qui existe encore malheureusement. Donc effectivement, à travers Halal She Beautiful, on a reçu beaucoup de témoignages de personnes noires et nord-africaines qui parlent en fait d'en plus du fait qu'il y a discrimination à cause des cheveux harash, c'est encore pire quand en plus de ça on a la peau noire. Et c'est quelque chose qui est encore actuel, qui a l'air d'être quelque chose qui est presque perpétuel en fait dans la société maghrébine, même s'il y a quelques petites évolutions, mais on n'est pas encore à un niveau de changement malheureusement. Donc effectivement, oui, avec Halal She Beautiful, on a reçu des témoignages parlant de cette négrophobie-là, parlant de ce colorisme.
Alors merci Yacine pour ton témoignage. Toi, tout à l'heure, tu nous expliquais donc, Zineb, que tu avais eu une expérience assez négative chez le coiffeur. Et tu m'avais dit aussi qu'en troisième, tu as commencé à laisser tes cheveux au naturel.
Alors en fait, pour tout vous dire, j'ai profité d'une faille en fait, parce que mes parents étaient à ce moment-là en dispute. Et du coup, comme les parents ne sont pas là pour te surveiller, en fait, parce que ma mère a toujours interdit de lâcher mes cheveux. Donc comme ils n'étaient pas là pour me surveiller, je me suis dit, ok, je vais tenter l'expérience, je vais lâcher mes cheveux parce que entre-temps, j'avais eu mon premier PC et tout. Et donc du coup, je voyais des personnes qui me ressemblaient, qui avaient les cheveux lâchés. Enfin, c'était pas très courant, mais je voyais quand même, je me suis dit, ah, ça peut être beau quand même sur moi. Donc j'ai essayé la première fois, j'ai lâché mes cheveux. Je crois que j'ai passé la pire semaine de ma vie parce que au niveau de ma famille, on n'a pas arrêté de se moquer de moi pour me faire changer d'avis. En fait, c'est on se moque de toi, on te dit que t'es pas belle comme ça et tout pour te faire changer d'avis, pour que tu fasses un pas en arrière. Je sais pas pourquoi, mais j'ai résisté. Enfin, mentalement, ça n'allait pas, mais disons que j'ai fait comme si je n'écoutais pas du tout ce qu'on me disait. On n'a pas arrêté de dire que j'avais sur la tête un nid de cigogne, que les cheveux comme ça n'étaient pas du tout beaux, que je devais me lisser les cheveux et tout. Pareil aussi pour mes camarades de classe. Oh, c'est quoi cette coupe, on dirait que t'as un palmier sur la tête. S'il te plaît, tu peux te mettre derrière parce qu'on va pas pouvoir voir en fait le tableau à cause de tes cheveux. Enfin bref, je suis passée par toutes les insultes possibles et imaginables. Et à un moment en fait, ça me faisait plus rien et j'ai juste commencé à accepter mes cheveux. Mais ce qu'il faut aussi noter, c'est que j'acceptais pas mes cheveux comme ils sont aujourd'hui. Là, ils sont frisés. Quand j'étais au Maroc, j'essayais de les boucler à tout prix. Je passais limite tout mon dimanche à mettre des crèmes sur moi, à faire les boucles avec mes doigts, à laisser ça poser quelques heures, puis à défaire les boucles pour que j'ai un petit volume, pour que ce soit bouclé vraiment avec des boucles définies, mais faut vraiment pas que mes cheveux soient frisés. Du coup, est-ce qu'on peut parler vraiment d'un retour naturel? Oui, mais je pense que j'ai redécouvert la nature de mes cheveux. Vraiment en arrivant en France, en arrêtant en fait tout simplement d'utiliser trop de crème pour boucler mes cheveux, je les ai laissés normal comme ça et là ils sont frisés. Enfin, ils tirent plus vers le crépus et j'aime ça quoi.
Bravo pour ton courage déjà. Et d'ailleurs ça nous rappelle la Miss Algérie. On n'a pas parlé de Miss Algérie 2019, toute la polémique qu'il y avait eu parce qu'elle avait Miss Algérie 2019, c'est Khadija Benhamou qui est physiquement qui est mat de peau, je dirais. Enfin, je veux pas la désigner, choisir à sa place comment elle se définit, mais en tout cas, elle a une peau plutôt mate.
Qui est née en Algérie.
Elle est née en Algérie, effectivement, elle est algérienne.
Voilà, en fait, je crois que c'est comme ça qu'elle se définit, je suis algérienne.
Et elle n'a pas les traits caucasiens, en même temps, elle est algérienne.
Quel mauvais goût.
C'est ça, quel mauvais goût d'être née comme ça. Et donc, elle a été désignée comme étant pas assez belle, en fait, pour représenter la beauté algérienne, parce qu'elle n'a pas donc les traits fins qu'on fantasme. elle n'est pas blanche de peau. Et il y a eu mais un tollé total, quoi. Elle a reçu des insultes. Tu crois que tu avais étudié la question, Myriam ?
Alors moi, j'ai étudié un peu la question parce que du coup, je voulais voir un peu l'ampleur, parce qu'elle a eu à la fois des insultes, à la fois des soutiens. Juste après son élection, il me semble qu'il y a eu quand même des gens qui sont sortis d'un peu partout sur les réseaux pour tweeter, pour dire « Non mais sérieusement, elle n'est pas belle, elle n'est pas représentative, est-ce qu'elle est vraiment algérienne ?» Donc bon, on peut se dire, quand ce genre de phénomène d'insultes sur les réseaux, que ça peut être le fait de personnes un peu haineuses chez elle. Mais j'ai été assez surprise dans mes lectures récentes de découvrir qu'un présentateur télé algérien s'était permis de dire qu'elle ressemblait à un homme et qu'elle était hideuse. Donc, pour montrer juste à quel point les gens qui font ces commentaires le font sans aucune conscience de ce que ça représente, de ce que ça veut dire. Déjà, la violence vis-à-vis d'une personne, parce que qui qu'on soit, on n'a pas à juger le physique des gens comme ça et à leur faire violence. Enfin, comme tu ne mettrais pas une droite dans la tête de quelqu'un, tu ne vas pas lui sortir ça, parce que c'est aussi violent qu'un coup, je trouve, d'une autre manière. Et d'autre part, on n'a pas conscience que c'est raciste, en fait. Genre, oui, c'est raciste de dire que si une personne a des traits noirs, elle ne peut pas être une femme.
Tu la déshumanises, en plus.
C'est ça.
Et toi, j'imagine, Zineb, que dans tout ce contexte, ça t'a un peu peut-être poussé à créer ta page. Pourquoi tu l'as créée, toi, à la base ?
Moi, à la base, c'était vraiment... quand j'étais venue en France et j'ai fréquenté... J'ai beaucoup d'amis dans mon entourage qui sont, d'origine subsaharienne. Et on parlait, on discutait... Et du coup, je me suis rendu compte en fait que niveau mentalité, niveau délire, niveau beaucoup de choses, en fait, on était vraiment très proches. Limite, je me sentais plus proche d'un Malien, d'un Camerounais que d'un Qatari ou d'un Saoudien. Vraiment, c'est ça. Et du coup, je me suis dit, mais c'est normal, on est africain, pourquoi on ne met pas assez en avant cette proximité ? Pourquoi on essaie toujours de mettre en avant la proximité culturelle avec le Moyen-Orient, avec l'Europe, et on ne met pas assez cette proximité culturelle qu'on a avec l'Afrique subsaharienne ? Et du coup, j'ai créé mon compte. J'alimentais pas à l'époque, j'avais juste une idée en tête, c'était encore un peu flou, mais j'ai créé le compte, je me suis dit, ok, pourquoi pas. Ensuite, j'ai encore fait de nouvelles rencontres, j'ai pu discuter avec d'autres personnes, j'ai lu beaucoup de livres. Sur le racisme, etc. Et du coup, je me suis dit, ok, il n'y a vraiment pas de compte qui parle de racisme au Maghreb, ça existe, je l'ai vécu. Beaucoup de personnes qui me ressemblent ou qui sont plus foncées de peau que moi l'ont vécu aussi. Donc pourquoi ne pas en parler ? Et j'essaie au maximum de collecter des témoignages de personnes du coup qui sont concernées pour vraiment libérer la parole autour de ce tabou qui est clairement, enfin le racisme au Maghreb c'est clairement un tabou et vraiment d'essayer de libérer la parole autour de ce sujet-là et de donner la parole en fait aux personnes qui aimeraient témoigner et qu'elles puissent lire d'autres témoignages pour pas qu'elles se disent « Ah non, mais peut-être que j'exagère, peut-être que c'est moi qui en fais trop. » Non, ça existe vraiment et tu l'as vécu et il faut que tu en parles, quoi. Faut que tu en parles. Et c'était pas du tout dans la logique de victimisation parce que j'ai reçu des messages en privé en me disant « Oui, vous aimez trop vous victimiser. Moi-même, je suis blanche parfois. Quand je bronze, on m'appelle Asie. Mais toi, tu bronzes. Moi, je suis comme ça toute l'année, quoi. Et moi, quand je bronze, à la limite, je ressens... Enfin, j'ai presque la même carnation que Nina Simone. Donc, bon... Tu vois, c'est pas du tout la même chose. C'est vraiment pas du tout la même chose.
Donc les réactions ont été plutôt négatives. Est-ce que tu peux nous en dire plus un peu sur comment ont réagi les personnes d'origine nord-africaine ?
Je crois que pour beaucoup, ils n'ont pas accepté le fait de mettre en avant... Parce que mon compte, il ne mettait pas juste en avant les témoignages des personnes, il mettait en avant beaucoup de personnalités, je dirais, publiques ou pas, qui restent tout le temps à l'écart, en fait, qui sont mises à l'écart dans les comptes qui sont censés représenter la beauté maghrébine. Donc, j'avais mis en avant plusieurs mannequins marocaines qui étaient noires, plusieurs choses comme ça. Et ça a dérangé les gens, en fait. Ça a dérangé les gens. Pourquoi tu mets en avant ce type de personnes ? Elles sont minoritaires. Nous, il y a plus de blancs en Afrique du Nord que de noirs ou d'afro-descendants. Pourquoi ci, pourquoi ça ? Il y a même des comptes. Trois comptes ou quatre, je ne sais plus, qui ont été créés spécialement pour moi, spécialement pour contrer, soi-disant, ma propagande négrophile, alors que mon but, ce n'était pas du tout ça. C'est-à-dire que j'ai créé mon compte, j'étais tranquille, c'était pour moi, c'était pour les gens qui me ressemblaient, c'était pour les gens qui étaient vraiment foncés de peau. Et toi, tu viens, tu me déranges, alors que je n'ai absolument rien demandé. Et aussi, je mettais en avant aussi quelques pistes historiques, en fait, sur le métissage qui existe au Maroc, en Algérie, en Tunisie. Et pour le coup, ça a aussi dérangé les gens. on m'a dit non, c'est pas possible, tu veux absolument te rapprocher des subsahariens, tu fais de la propagande négrophile. Dans leur compte, on m'a insulté. Il y a même un compte qui a été créé pour parodier mes posts. C'est-à-dire qu'on prenait mes posts, on changeait en fait les images, on mettait des personnes caucasiennes pour dire voilà à quoi ressemblent les maghrébins, voilà tout quoi. Je trouve ça un peu débile, c'est ça. Et j'ai reçu aussi plein d'insultes en privé, c'est-à-dire de comptes qui ont plusieurs followers. C'est ce qui me dérange. J'ai un compte, je crois que je sais plus comment le compte s'appelle, mais
on ne fera pas de publicité, donc ne disons pas son nom.
Oui, c'est ça. Et d'ailleurs, je dirais pas le nom, mais il est venu vers moi. On a commencé à m'insulter. Sous humaine, sale race, t'as placé au zoo, carteronne. Je savais pas que carteronne, c'était une insulte. Carteronne, ça veut juste dire que un de tes parents est métis afro, et que toi, du coup, t'es carteronne. Je savais pas du tout que c'était une insulte. On m'a insulté de tous les noms. Il y avait des gens qui venaient carrément en commentaire pour mettre des émojis de gorille, pour me traiter de négresse, pour tout, en fait, pour tout. Et ça m'a un peu choquée. Je pensais pas avoir. Je savais que j'allais être contestée, mais pas à ce point. Pas à ce point. Et surtout que c'est des personnes, pour la plupart, qui ont vécu en France. C'est le paradoxe, en fait. Qui ont vécu en France, qui sont nées en France, qui ont du coup côtoyé des personnes noires en France. J'ai pas compris pourquoi, en fait. J'ai pas compris.
On est vraiment désolée que tu aies dû vivre ça. Et j'ai même honte, en fait, en tant que personne nord-africaine, que des personnes qui sont censées être nos frères et nos sœurs réagissent comme ça. Au fait que tu t'exprimes, quoi, c'est vraiment horrible et choquant ce que t'as dû vivre.
Moi, il y a quelque chose aussi, Zineb, dans ce que tu disais tout à l'heure. Dans toute critique qu'on va faire en disant « au Maghreb, il y a du racisme envers les personnes noires », il y a beaucoup de gens qui vont essayer de se dire « ouais, mais en fait, ça, c'est de la propagande qui vient des autres États pour dénigrer le Maghreb ». Quoi qu'il en soit, il faut le reconnaître, nous avons un vrai... Enfin, pour moi, hein, je l'observe parce que je l'observe dans ma famille, je l'observe dans la famille de mes amis. On a un problème avec... les noirs, quoi, avec les personnes noires, c'est on n'arrive pas à reconnaître que certains d'entre nous puissent être noirs. Même moi, ma grand-mère qui est très mate de peau, dont le papa s'appelait Sahlaoui, si tu lui dis, si tu lui parles de sa couleur de peau, ou si, en fait, c'est un tabou les origines ethniques ou le physique de ma grand-mère dans ma famille, quoi. J'ose même pas lui en parler parce que j'ai l'impression que elle va se dire, mais tu m'accuses de quoi Non, moi je suis algérienne. Et c'est super bizarre, en fait.
Et juste pour parler des origines ethniques, moi je fais des recherches à côté parce que j'ai très peu d'informations, en fait, sur ma famille. Du coup, j'ai fait des tests ADN. Parfois, les pourcentages étaient totalement différents, en fait. Du coup, là, ce que j'ai fait, c'est juste repris les régions qui revenaient le plus souvent dans mes tests ADN. Et j'ai aussi posé la question à mes parents, plutôt à ma grand-mère, du coup, qui pour le coup est sahraouia, d'origine sahraoui, et à mon père, qui est très très mat de peau. Quand je leur pose la question, à savoir d'où vient, c'était quoi la couleur de peau de tes parents, parce que je les ai jamais vus, on me dit, par exemple, pour mon père, qui est très mat de peau, il m'a dit non, mon père il est très très blanc, ma mère est très très blanche. Je lui dis, mais comment ça se fait que t'es sortie comme ça, alors c'est pas possible. Et même pour ma grand-mère, quand elle parle de ses oncles, elle me dit, non, ils sont pas foncés de peau, ils sont comme toi, ils sont un peu rougeâtres, ahmémar. Genre, même pour dire noir, c'est pas possible, c'est vraiment pas possible. Et je trouve ça vraiment dommage. Et du coup, moi, ça me complique la tâche, du coup, pour trouver mes origines ethniques, pour faire des recherches, parce qu'on ne veut pas me dire, en fait, d'où je viens, littéralement. On n'a pas envie de on va dire de ressasser le passé, quoi.
Le racisme s'exprime aussi dans l'effacement, en fait, de ton histoire. Et effectivement, en reniant comme ça d'où tu viens et la couleur de peau de tes ancêtres, on efface un peu. Et effectivement, on veut oublier, on veut devenir le plus clair possible. C'est vrai qu'il y a une vraie hiérarchisation, en fait, insidieuse dans les communautés nord-africaines. C'est que même si c'est pas écrit noir sur blanc, en gros, les blancs, les gens clairs de peau sont au-dessus de la société, et plus t'es noir de peau et moins tu as de moyens financiers, moins t'as accès au travail, moins t'as accès au mariage et d'autres choses de la société.
Oui, c'est ça.
Et tout à l'heure, on parlait aussi de Black Lives Matter. Justement, y a eu beaucoup de réactions, malheureusement, avec tous les incidents, enfin les terribles meurtres qui ont eu lieu, on peut dire meurtres. Et en fait, il y a une actrice marocaine, je ne sais pas si vous avez vu, qui s'appelle Mariam Hussein et qui, en fait, a suscité la polémique parce qu'elle a voulu soutenir, enfin un peu s'approprier le combat comme beaucoup d'influenceurs et d'influenceuses malheureusement sur Instagram. Elle a voulu soutenir la cause après le meurtre de George Floyd qui a été tuée le 25 mai dernier, en publiant une photo d'elle sur Instagram où sa peau est peinte en fait en noir, quoi.
Donc photoshopée.
Elle l'a photoshopée. Elle a même pas. Il me semble qu'elle l'a même pas fait elle-même, ouais. C'est qu'elle l'a photoshopée. Donc elle a clairement fait un blackface ou un barbouillage, comme on dit en français. Et en fait, je crois que ça représente bien en fait cette méconnaissance et ce racisme tellement intégré qu'elle croyait bien faire et défendre la cause. Et en fait, elle a fait un truc totalement raciste, quoi.
Et il n'y a pas qu'elle, en fait. Il y a eu plusieurs, je peux t'en citer même cinq, de personnes, de personnalités publiques au Maroc et en Algérie, qui pour le coup, et pas même au Moyen-Orient, qui pour le coup ont fait des blackface. Il y a même, je me rappelle, une influenceuse au Moyen-Orient qui a pris une perruque frisée en mode afro, qui s'est un peu allée la peau et qui a dit « Moi, j'ai toujours voulu être noire. Du coup, soutien au mouvement BLM. » C'est incroyable. Et quand il y a eu des gens en fait, qui sont venus dans les commentaires dire que c'est pas normal, en fait, on se grime pas en noir pour soutenir les noirs, les personnalités publiques n'ont même pas répondu. Elles n'ont pas répondu parce qu'elles comprenaient pas, en fait. Pour elles, ça partait d'une bonne intention, elles voulaient vraiment faire quelque chose, et elles ont mal fait les choses, et elles acceptaient pas du tout la critique, vraiment pas.
Mon corps n'est pas un déguisement, en fait, donc tu n'as pas à te grimer pour me défendre.
Mais il y a aussi, justement, de l'hypocrisie par rapport à la prise de position, parce qu'au final, ces personnalités publiques, ou même d'autres personnes, quand elles expriment, en fait, leur soutien au mouvement Black Lives Matter, la plupart du temps, c'est juste pour ramener tout à elles-mêmes et pour dire aux gens, regardez, je ne suis pas raciste, j'ai de la peine aussi pour les Noirs, etc. Après, ces personnalités n'ont plus jamais reparlé du sujet. Alors que c'est le racisme anti-noir, c'est un truc qui se passe chaque jour. Elles n'ont plus jamais reparlé de ça. Et je suis sûre que si on les invitait sur les plateaux télé au Maroc pour parler du racisme anti-noir au Maroc, elles n'auraient pas réagi. Elles n'auraient rien dit, en fait. Rien du tout.
Pour revenir justement sur l'engagement que tu montres avec ta page Rawa Half Half, on a eu la chance d'avoir le témoignage également de Sophia Grisbembe, qui est porteuse du compte The Mazige Project. Mazige, ça veut dire mélange, mixture, alliage, car avec sa page Instagram, elle veut parler de la mixité afro-arabe sous toutes ses formes. Sophia, elle est d'origine marocaine, elle a créé sa page en tant que concernée, car le sujet est selon elle, et on en a la preuve, encore trop peu abordé.
Alors mon vécu en tant que femme noire et maghrébine est bien évidemment complexe. Hein. Pour rappel, moi je suis d'origine marocaine et centrafricaine, je suis née et j'ai grandi en France. Alors complexe parce que je suis physiquement bien loin des représentations que l'on peut se faire de la femme maghrébine, autant pâle ou mate, avec une longue chevelure épaisse et bouclée, de grands yeux noirs. Ma mère par exemple correspond parfaitement à cet archétype, hein. C'est une femme marocaine sublime comme il y en a beaucoup, et j'ai longtemps été complexée de ne pas lui ressembler. Je voulais être entre guillemets aussi belle qu'elle, je sentais bien que j'étais pas dans la norme. Alors oui, parfois ça a été frustrant, parce que n'importe quel métis pourra vous dire à quel point le sentiment d'appartenance est important, voire vital, pour pouvoir se structurer, identitairement parlant. Donc ensuite, comme beaucoup d'enfants d'immigrés marocains, donc moi j'allais en vacances au Maroc, comme tout bon smagré qui se respecte, et là j'ai découvert un véritable paradoxe, parce que j'ai réalisé que les Marocains me ressemblaient bien plus que je ne le pensais, parce qu'il y avait une véritable diversité au Maroc, mais qui était totalement invisibilisée. Et voilà, j'ai vu des Marocains de toutes les couleurs cohabiter ensemble, plus ou moins facilement, parce que ça dépend des milieux. Mais en tout cas, être Marocain et noir, ça ne semblait pas être antinomique du tout, Maroc. Parallèlement à tout ça, et c'est là que le paradoxe est criant, c'est que j'ai pu constater qu'il y avait un racisme vis-à-vis des personnes noires, qu'elles soient marocaines ou subsahariennes, qui était parfois d'une violence inouïe. Et par-dessus le marché, il y a un déni qui est extraordinaire aussi en ce qui concerne la question du racisme. Vous entendrez souvent des phrases du genre « on n'est pas raciste, on est tous des frères, le racisme n'existe pas chez nous », etc. Mais la réalité du quotidien, elle est différente. Parce que si vous êtes marocain, si vous êtes noir, et si par-dessus tout ça vous êtes une femme, bah juste sortir dans l'espace public peut vraiment tourner au drame. On se fait interpeller, on se fait insulter, etc. Donc je parle de ça dans la page The Mazige Project sur Instagram, et j'essaie tant bien que mal donc de réunir des témoignages de personnes afro-arabes, afro-berbères. Je dis tant bien que mal parce que c'est pas évident, hein. Souvent ces personnes, je rencontre virtuellement souvent des personnes qui soutiennent le projet, mais qui ont peur de témoigner parce qu'ils ont peur des réactions violentes, ils ont peur des répercussions. Ça, c'est un peu problématique. Et donc voilà. Mais à la base, moi, je voulais pas du tout m'engager dans une lutte antiraciste. Hein. C'était vraiment pas ma volonté hein, au départ, hein, parce que franchement, j'ai ni la force ni l'envie d'éduquer les gens sur la du racisme dans les pays arabes ou arabisés. J'en ai pas la force. Moi, je voulais simplement créer une plateforme pour que les personnes qui naviguent entre ces identités-là, donc cette identité noire au sens large et arabe de l'autre, pour que vraiment ces personnes puissent échanger, partager leurs expériences communes. Voilà, l'idée, c'était de créer une plateforme solidaire qui donne une voix à des personnes qui souffrent d'un véritable manque de représentation. Hein. Mais bon, en réalité, cette thématique, elle est juste inévitable. On ne peut même pas faire autrement. Le racisme fait tellement partie du quotidien de ces personnes. C'est un phénomène qui est traumatisant et qui impacte leur santé mentale. Donc, je ne pouvais vraiment pas faire autrement. Quoi. Donc voilà, mon rêve, en fait, c'est qu'un jour, on puisse parler de ces personnes sans avoir à mentionner le problème du racisme.
Merci infiniment, Sophia, pour ce témoignage qui, finalement, résume très bien tout ce qu'on a dit depuis le début de l'émission. Zineb, on retrouve un peu ce que tu disais aussi, c'est qu'à la base, tu n'avais pas du tout créé ta page comme page antiraciste et finalement, tu as été obligée de le faire.
Oui, c'est ça, en fait. C'est, comme elle le dit, c'est... disons que voilà, c'est par rapport à tes expériences, ça te marque. Au début, quand t'es pas éduqué sur le sujet, ben forcément, t'as pas les mots pour t'exprimer par rapport à ça, t'as pas les mots pour communiquer avec ton entourage, pour en parler. Et moi, comme je vous l'ai dit, je suis venue en France, j'ai eu la chance de rencontrer plusieurs personnes d'origine subsaharienne qui m'ont éduqué sur le sujet, qui m'ont appris beaucoup de choses. Et du coup, j'ai dû prendre beaucoup de recul par rapport à ce que j'ai vécu, tout réinterpréter en fait. C'est comme si... je repassais dans ma tête toutes les années d'écho au Maroc. J'étais là à interpréter. Oui, mais pourquoi on m'a dit ça? J'aurais pas dû accepter qu'on me dise ça. C'est pas normal. Et je me suis aussi posé comme je vous l'ai dit des questions par rapport à mon identité. Pourquoi j'ai les cheveux frisés? Pourquoi j'ai la peau mate? Pourquoi mon père ne se définit pas en tant que noir? Pourquoi ci? Pourquoi ça? Enfin, vraiment, c'est limite mon quotidien. J'invite dire vraiment mon quotidien.
Et d'ailleurs, Sophia parle de quelque chose de très intéressant aussi. Elle dit qu'il y a une espèce de cumul. Tu vois, par exemple, elle, c'est une femme noire ou métisse qui est marocaine et en plus, c'est une femme, en fait. Et c'est un vrai problème. Et en fait, il y a aussi une vraie invisibilisation aussi des corps qui ne sont pas la maghrébine qu'on voit partout. C'est-à-dire que dans les mouvements féministes d'Afrique du Nord, il n'y a pas... ton image, en fait. Tu n'existes pas non plus. Et on parle beaucoup du cliché de la beurette, qui est évidemment un cliché à combattre, mais on parle pas forcément des insultes dont toi, tu as été la victime.
C'est ça. En fait, moi, à la base, j'ai commencé à m'intéresser au mouvement féministe quand j'étais au Maroc, mais c'était très centré sur le féminisme, entre parenthèses, blanc. Et du coup, à un moment, je voyais que ça divergeait trop entre ma pensée et ce que pensaient ces féministes-là. Du coup, j'ai arrêté de m'intéresser et j'ai repris, en fait, quand je suis venue en France récemment. Et en fait, quand je rentrais sur des pages censées être féministes et censées représenter les femmes maghrébines nord-africaines, c'était plus des pages qui parlaient, par exemple, de femmes musulmanes en hijab, ce qui est absolument normal, qui parlaient plus d'un certain type de femme avec certains traits, mais on parlait jamais de la problématique du cheveu, la problématique du colorisme, en fait, de manière générale. Et il y avait plein de choses, en fait... j'arrivais tout simplement pas à me situer, à me sentir représentée. Et du coup, je me suis posé la question, je me suis dit, mais du coup, j'ai jamais été traitée de beurette, alors finalement, je fais comment? Je sais pas, est-ce que je dois suivre du coup le mouvement afroféministe? Est-ce que je dois créer un autre mouvement pour moi, pour les personnes qui me ressemblent, ou tout simplement pour des personnes qui se sentent représentées, qui ne se sentent pas représentées par les mouvements féministes maghrébins? Je vous avoue que jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas quoi faire, quoi. Je ne sais pas. Je puise un peu des deux, on va dire. Je lis des trucs sur l'afroféminisme et je lis des trucs sur le féminisme nord-africain. Voilà ce que je fais en ce moment.
Zineb, je voudrais te poser une question, parce que je pense qu'une réaction que peuvent avoir certains quand ils entendent parler de gens qui se mobilisent pour... faire des recherches sur leur propre identité, c'est de dire pourquoi tu grattes en fait un peu les parties qui font mal. Et toi, ton expérience, par exemple, de ce chemin que tu as fait vers ton corps et plus tard vers les origines de ta famille. Comment tu l'as vécu ? Est-ce que ça a été un épanouissement personnel ? Avec le recul aujourd'hui, est-ce que tu, par exemple, si une personne qui nous écoute est dans une situation similaire, qu'est-ce que tu lui dirais de ce parcours de retour vers soi et vers ses origines africaines ?
Par rapport à la recherche de mon identité, j'ai toujours pas fini de chercher en fait qui je suis, de chercher qui étaient mes ancêtres. Ça finit jamais en fait. Je pense que c'est une quête perpétuelle en fait vers la vérité. Ça ne finit jamais.
Pour commencer cette quête, je pose vraiment la question honnêtement. Est-ce que parfois tu dis peut-être que ce serait plus simple en fait si juste je continuais de me lisser les cheveux, que je jouais le jeu comme on me dit, j'ai les traits fins, que j'essaie de tirer vers l'occidental, ou est-ce que au contraire tu te sens mieux en fait en pouvant je sais pas, essayer de vivre ça et de l'explorer, même si c'est long, même si c'est fastidieux.
Je dirais que parfois, je me dis tout simplement, pourquoi est-ce que je ne suis pas une seule chose ? Enfin, pourquoi est-ce que je ne suis pas juste blanche de peau, avec, juste blanche ? Ou pourquoi des fois, est-ce que je ne suis pas juste noire et pas les deux, en fait ? Parce que quand tu es les deux, c'est là que ça pose problème. C'est là que tu dois faire des recherches sur ton identité. Tu dois essayer de te rattacher à un groupe. Est-ce que tu vas te rattacher à la communauté afrodescendante et noire marocaine et subsaharienne, ou est-ce que tu vas te rattacher à la communauté nord-africaine pour le coup, qui serait plus blanche et qui le revendiquerait? Enfin bref, il y a beaucoup de questionnements et c'est vrai que des fois on a envie que ce soit plus simple. Pourquoi est-ce que je ne suis pas juste ça, ou je me suis embarquée dans ça? Pourquoi j'ai essayé de chercher par rapport à ça? J'aurais juste dû tout simplement rester comme j'étais et vivre en fait ce que j'ai vécu, et puis c'est tout. T'as besoin de savoir qui tu es, de pouvoir te positionner en fait. Tu peux pas rester entre les deux. T'as besoin en fait de retourner à tes racines, ça te permet aussi de te ressourcer en fait, de pas être juste là, t'es pas juste un humain qui est né, qui vit juste comme ça, qui flotte limite dans l'air et puis c'est tout, qui vit sa vie et puis qui meurt. Enfin, je trouve que l'identité, je dirais que c'est plus un besoin personnel, mais je saurais pas t'expliquer l'enjeu exact en fait. C'est comme ça, c'est comme ça, je dirais.
Jamila nous a préparé un petit point vocabulaire sur le terme du racisme subi par les personnes noires.
Alors, je vais commencer par la conclusion. Cessez de dire le mot « quel » lorsque vous parlez en français. Tout comme il est admis qu'on ne dit pas « black » quand on parle en français. Ma première réflexion était de me dire « quel on délija dans le Maghreb signifie « noir ». Le terme est neutre, sans connotation particulière. Alors pourquoi ça sonne comme un gros mot dans la bouche de certaines personnes ? Simplement, il est utilisé au sein de la diaspora maghrébine en France de façon négative. Il est plus que connoté, il est chargé d'un racisme manifeste. Alors, lorsqu'on lui fait l'association de termes sexistes et insultants, type « beurette à khel », là, on est sur du vomi. Cessez de dire « khel », parce que ça heurte les personnes qui se sentent concernées, nul besoin d'un autre argument. Je vous parle de ce mot parce qu'il est neutre linguistiquement. Pourtant, l'usage qui en est fait en France est raciste. Je vous le dis aussi simplement aujourd'hui, mais jusqu'à hier, je comptais faire l'inventaire des mots pas beaux à rayer de notre vocabulaire. Ne pas dire kahlouche parce que le suffixe louche à la fin est stigmatisant, infantilisant, réduisant, dénigrant. Plus loin dans la sémantique, je me perdais dans des termes abjects de la derija ou du littéraire qui associent les personnes noires à l'esclavage. Je ne vais pas prononcer tous ces mots-là pour éviter toute pub. J'ai cherché des termes polis qu'on pourrait utiliser. Je me suis tournée vers les médias les plus sérieux. Je suis tombée sur le littéraire de Ekhel, qui est Aswad. J'ai cherché plus raffiné dans la tradition prophétique de l'islam. J'ai trouvé Ajam, la noyade. Et pourtant, j'étais armée de mes meilleures intentions. Ce n'est pas facile de questionner sa propre culture. Ce n'est pas facile de prendre le recul nécessaire pour se remettre en question, pour corriger ses propres biais. J'ai trouvé la solution dans le dialogue, non sans blague. L'ampoule s'est allumée. Je ne vous dirai pas qui m'a dit « Khel, c'est péjoratif dans la diaspora. Ici, pas au bled. Au bled, Khel, c'est Khel, en fait, c'est noir. J'acquiesce, oui, tout à fait. Donc, pourquoi ici, c'est une insulte ? Pourquoi l'usage est ultra chargé ? Et cette personne me répond « parce que le mot n'a rien à faire là dans une phrase en français ». T'es bien d'accord qu'on ne dit pas « black » quand on parle en français d'une personne noire. Et là, ben oui, bien sûr, quelle bêtise cet usage. Pendant tout ce temps, je cherchais un plus beau mot en arabe et je n'ai pas pensé simplement à transposer ce raisonnement à ma langue maternelle. Ok, j'ai pas inventé l'eau chaude, mais à culpa. Pour ceux qui tendent à plus d'amour et de respect dans notre société, lorsque vous parlez de personnes noires dans la langue française, dites simplement « noir ».
Merci Djamila. Effectivement, si vous voulez parler de quelque chose de noir ou d'une personne noire, vous dites le mot noir, vous ne dites pas black, vous ne dites pas kahlouche, s'il vous plaît, pitié.
Moi, je voudrais revenir aussi sur la question du métissage et des personnes, des femmes d'origine nord-africaine notamment, qui sont en couple avec des hommes noirs. Parce que souvent, j'imagine dans votre vie, moi en tout cas c'est mon cas, ça a été « ne te mets pas en couple avec un homme noir, ne fais pas ça, tu mérites mieux », enfin des horreurs comme ça. Et on a eu la chance, encore une fois, d'avoir le témoignage d'Imen, qui est une jeune femme d'origine algérienne, qui est en couple avec un homme noir et qui nous a partagé un bout de leur histoire.
Donc j'ai souvent entendu des termes comme bon bah vous m'excuserez mais beurette à khel, tu sais des termes un peu violents comme ça où on rabaisse à la fois la femme maghrébine et l'homme noir. J'ai forcément tout le temps entendu dans mon avancée dans la société des termes comme kahlouche, tu vois, khel et kahlouche, c'est hyper grave parce que ce soit quand la personne parle uniquement arabe et te dit le mot kahlouche, enfin moi je le traduis comme noiro quoi, et c'est hyper raciste, c'est l'équivalent pour moi du n-word, tu vois. Et à côté de ça, le fait même d'entendre le terme khel, c'est-à-dire tu parles en français et d'un coup t'intègres le mot khel, c'est la même chose pour moi que d'entendre le terme black alors qu'il y a un mot pour ça qui existe en français, tu vois. Donc ça déjà c'était hyper violent et c'était pas mon combat, tu vois, c'était le sien, mais tu vois quand t'aimes quelqu'un c'est quand même quelque chose qui te touche et c'est quand même quelque chose qui te fait hyper mal et t'as envie de le défendre sans forcément t'approprier, tu vois, sa culture. Mais quand j'ai officialisé notre union, enfin pas officialisé mais en tout cas quand j'en ai parlé sur les réseaux, j'ai eu beaucoup de retours haineux de personnes, bien sûr, anonymes, hein, sous des comptes cachés, qui disaient des trucs hyper racistes. Enfin, je vous épargne la violence des propos, mais que ce soit en l'assimilant à un singe, en parlant de la taille de son sexe, en parlant de son odeur ou quoi, ça, c'était hyper violent. Mais à côté de ça, moi, je pense que je fais partie des gens qui ont, du coup, là, pour le coup, un entourage, et là, je parle des personnes qui me sont proches, hyper bienveillants, hyper safe. J'ai déjà eu dans mon entourage des personnes qui faisaient du racisme ordinaire sans s'en rendre compte. Et après leur en avoir parlé, et quand j'ai vu qu'il n'y avait pas de changement, je me suis vite séparée de ces gens-là. Mais que ce soit mes parents, que ce soit mon entourage, que ce soit ma famille, j'ai pas ce problème-là, parce que j'ai jamais eu le problème, moi, dans ma famille, d'entendre « oui, t'as pas intérêt à te mettre avec un noir » ou quoi ou qu'est-ce. Enfin, ça, j'ai jamais eu ça. Enfin, ça n'a jamais été un souci. Et on n'a jamais rabaissé quelqu'un au niveau de sa couleur de peau, tu vois. Et ça, j'en suis plutôt heureuse. Pour autant, j'ai quand même eu affaire à des commentaires haineux, et surtout lui. Et en fait, moi, peut-être le message que j'aimerais passer avec peut-être ce témoignage, c'est que certes, moi, ça me fait mal parce que je l'aime, mais je pense que le plus important, c'est lui, tu vois. Et je suis hyper admirative de sa patience, hyper admirative de son lâcher prise, et tout en continuant à militer, tout en continuant à combattre, quoi. Donc voilà, donc moi je fais partie sûrement de ces gens qui n'ont jamais eu de problème avec ce que leur entourage au niveau de leur union en tant que femme maghrébine avec un homme noir, mais j'ai pas du tout, enfin je suis pas du tout passée entre les mailles du filet en ce qui concerne les autres remarques très très racistes et très compliquées de la part des autres, quoi. Mais je pense qu'il faut quand même pas négliger qu'il y a énormément de racisme au sein de la communauté maghrébine en ce qui concerne les personnes noires, qu'elles soient maghrébines ou non, en fait. Et ça, c'est quelque chose sur lequel il devrait y avoir énormément de changements.
Merci Imen pour ce très beau témoignage et cette belle preuve d'amour et de soutien pour son compagnon. Justement, je pense que Imen, elle parle très bien de la question d'être une alliée en fait, pour nos concitoyens, consoeurs, frères, je ne sais pas comment on peut dire ça. Mais justement, Mériane nous a préparé une boîte à outils pour être la meilleure alliée pour aider les personnes noires qui subissent le racisme.
Oui, tout à fait, Nadia. Donc, je vais vous donner quelques conseils issus de ma réflexion. Je voudrais préciser, avant de commencer la lecture, que je me considère moi-même comme une personne qui est pendant longtemps et qui est encore sûrement eu des croyances racistes, qui en est encore. Je m'associe à toi, auditeur, qui écoute cette chronique dans le travail à faire ensemble. Donc, cette chronique risque de te chambouler. Arrivé au bout de cet épisode, tu as peut-être pris conscience que nous, maghrébins, nord-africains, arabes, partageons des croyances communes sur les personnes noires. Des croyances qui nous poussent à utiliser des mots d'argot pour les désigner, qui nous poussent à rire lorsqu'on voit une personne noire. Des croyances qui construisent une attitude collective raciste. Avec cet épisode, l'objectif de Nerner, c'est d'aller de l'avant, pour s'élever ensemble vers une meilleure connaissance de notre identité, pour trouver assez de place pour que chacun soit à l'aise. Alors pour toi, qui veux faire ce chemin avec nous, voici quelques outils pour déconstruire les préjugés racistes envers les personnes noires. Premier outil, prendre conscience du phénomène et de ses conséquences. On ne peut pas démonter un meuble si on ne le voit pas. C'est pareil pour une croyance raciste. Si tu ne la vois pas, tu ne peux pas t'en libérer. Comment prendre conscience de tes croyances racistes ? Je te propose de sortir de toi-même pour te mettre à la place des personnes qui en sont la cible. Bonus qui aide un peu, tu as sûrement toi aussi déjà été victime de discrimination. Donc, la première chose pour prendre conscience du phénomène, c'est se demander si tu trouverais normal, souhaitable, tolérable, que quelqu'un t'appelle bougnoule, esclave, indigène. C'est pourtant ce que tu fais en utilisant le mot qui commence par un K. Oui, ce mot est raciste. Si tu l'utilises, tu perpétues le racisme. Autre chose pour prendre conscience de tes croyances racistes, c'est interroger les représentations culturelles que tu as reçues. Je recommande la lecture d'un article du Middle East Eye qui est intitulé « Comment le monde du divertissement arabe a contribué au racisme anti-noir au Maghreb et au Moyen-Orient ». Il est écrit par Joseph Fahim, un critique de cinéma. Il y explique par exemple que dans le cinéma égyptien, les personnes noires sont presque toujours représentées comme occupant le poste de concierge ou de barman. Dans les programmes humoristiques, on caricature les personnes noires. Les castings les écartent. Elles sont aussi écartées des postes de présentateurs, d'animateurs de télé, donc invisibilisées. Dans un tel contexte, pas étonnant que, comme dans la scène que je décrivais en introduction, la vue d'une personne noire puisse chez certains déclencher un fou rire. On dénombre aussi des recours au blackface, on en parlait tout à l'heure. Donc une blackface, c'est quand une personne blanche maquille sa peau pour se déguiser en personne noire. Plusieurs artistes ont utilisé ce stratagème pour manifester leur soutien au mouvement Black Lives Matter, en publiant des photos d'eux photoshopées sur leurs réseaux sociaux. Le problème, c'est que se déguiser en noir, c'est caricaturer l'identité noire et occuper, une fois de plus, une place qui revient légitimement à une personne noire. Les réponses à ces soutiens inappropriés n'ont pas tardé. Une personne a ainsi commenté « Dire que vous voudriez être né dans le corps d'une personne noire, ce n'est en rien me soutenir face au racisme. Au mieux, cela me dit que vous pensez que ce serait amusant de jouer un rôle. » Dès lors, on peut se dire que chercher des représentations différentes et produites par des concernés, c'est faire d'une pierre deux coups. On a accès à un autre point de vue et on soutient leur travail. Dans son article, Joseph Fahim fait une sélection de films arts et essais créés par des réalisateurs soudanais. Alors pour ta prochaine soirée ciné, tu peux mater « Tu mourras à 20 ans » de Hamjad Abou Alala. Autre film « Talking About Trees » de Suhaib Ghasmelbari qui raconte l'aventure d'un groupe de cinéastes soudanais qui défient la censure pour projeter des films à travers leur pays. Dans ces deux films, on voit des personnes noires et arabes à la fois. Autre outil pour réaliser et prendre conscience de tes croyances racistes, c'est sortir de l'invisibilisation. Regarde en face les Maghrébins, les Arabes noirs. Donc tu peux consulter le compte de Kawa Half Half ou celui de The Mazish Project. Il y a également une page Facebook qui s'appelle Mnemti, M-N-E-M-T-Y. C'est une association antiraciste tunisienne qui a organisé des mobilisations pendant l'été. La fondatrice, Sadia Mounbah, est une femme noire qui parle arabe. Le simple fait de la regarder m'a fait du bien. Je te recommande d'essayer pour prendre conscience qu'on peut être arabe et noir en même temps. Et pour reprendre la punchline de Samia Orozman, qui fait un sketch sur les accents africains, le Maghreb est en Afrique, pas en Californie. Tâchons de ne pas l'oublier. Deuxième outil, camarades, après avoir pris conscience de tes croyances racistes, il est temps de faire ton autocritique. Maintenant que tu vois l'ampleur de ces croyances, dans ton esprit, voici un petit tournevis pour les retirer et défaire l'ensemble. Première chose, change de langage. N'utilise pas des mots qui stigmatisent les personnes noires, mais des mots qui signifient noir en arabe. Ou encore mieux, quand tu parles en français, toujours utilise le mot noir. Ce n'est pas une insulte, ce n'est pas un problème. Utilise le mot noir. Deuxième chose, réconcilie-toi avec ton africanité. Cheveux crépus ou bouclés, couleur de peau foncée, nez plus large. On nous a appris à les considérer comme moins beaux. Remets en question cette classification subjective. Comme le disait Miss Algérie en réponse à ses détracteurs, tous les corps sont beaux à leur façon. Donc ne blâme pas ton corps s'il a ces caractéristiques-là. Et surtout, ne blâme pas les personnes de ton entourage dont c'est le cas. Dernière chose, pour faire ton autocritique, deviens un allié. Bethel Mabi a publié « Semblant de rien », une infographie sur le rôle des alliés. Tu peux la consulter sur Facebook. Elle y explique que les alliés sont des personnes qui ont conscience des discriminations, même si elles ne les vivent pas, et veulent les combattre. C'est ton cas ? Elle te recommande d'une part de faire une introspection sur ton privilège en tant que personne considérée comme claire de peau, et de sortir de ta zone de confort. Comment réagir, comme ça a été mon cas, quand ta famille, tes amis, tes collègues ont un comportement raciste envers les personnes noires sous tes yeux ? Voici trois pistes inspirées en partie de mon cours d'autodéfense. Première chose, ne pas participer pour marquer ton désaccord. À minima, tu peux te retirer et ne pas te sentir obligé de rire à leurs blagues. Adopter un regard blasé, c'est encore mieux. Nota bene, pour ce regard, entraîne-toi à l'avance dans ton miroir pour être sûr qu'il soit bien mitraillant. Deuxième chose que tu peux faire, nommer les faits. C'est-à-dire leur dire que ce qu'ils disent, font, projettent est raciste. Un petit conseil, respire bien fort avant et prévois un moyen de fuir juste après si tu n'as pas envie de te justifier ou de te faire traiter de rabat-joie. Dernier conseil, tu peux soutenir les personnes cibles de ces insultes ou de ces préjugés si tu es témoin d'une attaque raciste. Pour Bethel, il est important toutefois de ne pas jouer au sauveur. Alors ne fais pas le super-héros, mais tu peux toujours montrer à la personne ou les personnes cibles de ces attaques par un regard, un geste, un mot, que tu as compris ce qu'il se passe et lui demander ou leur demander si elle veut que tu fasses quelque chose. Mais bien attention, garde toujours à l'esprit que tu dois rester humble et laisser à cette personne ou ces personnes le droit de gérer les choses comme elles le souhaitent. Pour finir, on a de bonnes raisons de croire à des jours meilleurs et de rêver d'un Maghreb sans racisme. En 2018, la première loi criminalisant le racisme a été votée en Tunisie et le mouvement Black Lives Matter a une résonance sur l'Afrique du Nord. Pour la fondatrice de Mnemti, l'association antiraciste tunisienne, le progrès passera par l'éducation des jeunes générations et une attitude ferme contre le racisme. Alors, éduque-toi et rallie-toi.
Merci infiniment, Myriam.
Je voulais juste rebondir sur la chronique de Myriam concernant la Tunisie qu'on a peu abordée depuis le début. Et je voulais juste saluer tout le travail qui est fait en Tunisie sur cette thématique parce qu'il existe depuis très longtemps, notamment depuis la chanson de Hedi Jouini qui s'appelle « Lamouni Liraloumani ». C'est une chanson hyper connue au Maghreb et dans le monde arabe qui raconte une histoire d'amour entre un arabe vraisemblablement blanc et une femme noire. Donc cette chanson est connue depuis très longtemps et c'est un héritage tunisien. Et puis il y a aussi le poète Anis Chouchan qui milite en ce sens depuis déjà très longtemps, depuis bien avant Black Lives Matter. Et donc je voulais juste saluer la Tunisie parce que souvent la lumière nous vient de Tunisie.
Merci la Tunisie, merci Jamila, merci Myriam. Et surtout merci Zineb d'avoir été là avec nous pendant toute cette émission. On te laisse le mot de la fin.
Déjà, merci à vous de m'avoir invité. C'est vraiment un honneur pour moi et de pouvoir parler de ce qui me tient vraiment à cœur. Je trouve que c'était vraiment très intéressant, que les questions étaient vraiment très pertinentes. Et au plaisir de reparticiper peut-être un jour à une autre de vos émissions. Ça me plairait vraiment beaucoup et merci beaucoup encore une fois.
Avec grand plaisir. Merci Zineb et sa page Kahwa Half Half sur Instagram. Et merci également à Yacine, Sophia et Imen qui ont avec grande générosité partagé leurs témoignages. Dans quelques jours, tu pourras également découvrir un deuxième épisode sur le même thème, dans lequel tu découvriras l'histoire d'amour entre Iman et Faiswal. À très bientôt et merci à Myriam et Jamila, merci à nos producteurs de la Popcast. Et pour nous soutenir, n'hésite pas évidemment à partager cet épisode s'il t'a plu, à nous écrire sur les réseaux sociaux à Nana Podcast, NA3NA3Podcast. Tu peux également, si le cœur t'en dit, nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. Hein, ça mange pas de pain, c'est très bien.
À bientôt, merci tout le monde, merci
à très
Nadia.
Vite.
À bientôt, au revoir.
Pour clore cet épisode, on te quitte avec la musique envoûtante d'un grand artiste gnawa, Mahmoud Guinia. Le folklore gnawa représente cette mixité afro-arabe et afro-berbère et c'est Sophia qui nous l'a conseillé. À nos identités plurielles.